L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Aben Belaïd, politologue, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Pour deux émissions consécutives. La première sera consacrée au massacre du 8 mai 1945 en Algérie et du choc paradigmatique qu'ils ont provoqué au sein du mouvement national algérien, faisant apparaître la lutte armée comme le seul et unique moyen pour reconquérir l'indépendance de l'Algérie. Nous nous pencherons en particulier sur le personnage d'Aban Ramdan, l'un des principaux cerveaux de la révolution algérienne du 1er novembre 1954. Nous évoquerons notamment sa pensée politique et philosophique de la révolution et sa vision de l'Algérie indépendante dans les domaines politiques, économiques, sociaux, militaires et diplomatiques. Dans la seconde émission, nous aborderons l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et le rôle joué par l'Union soviétique dans la guerre contre l'Allemagne nazie à l'occasion de la Journée de la Victoire du 9 mai 1945. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Pour la majorité des révolutionnaires algériens, la guerre d'Algérie est née le 8 mai 1945 à Sétif, Kharata et Guelma. En effet, la répression par l'armée coloniale des manifestations du 8 mai 1945, organisée pour fêter la victoire alliée contre le fascisme et l'Allemagne nazie qui a fait des milliers de victimes, est dans la mémoire collective algérienne le véritable point de départ de la guerre de libération nationale du 1er novembre 1954. Cette date est un traumatisme profond, aggravé dans la mémoire collective algérienne par l'humiliation des cérémonies de l'Amen le 22 mai 1945 sur la place de Souq l'Ethnine près de Béjaïa, où les Algériens sont obligés de demander pardon aux autorités coloniales pour ce qui s'est passé le 8 mai 1945. Alors, la restitution de la vérité sur cet événement, qui a fait au moins 15 000 morts selon les dernières estimations, est plus que jamais nécessaire à plusieurs titres. En effet, le 1er novembre 1954 est d'abord la résultante, certes lointaine, d'une longue résistance acharnée depuis 1830, date du profond traumatisme de l'invasion coloniale, de sa violence cruelle, de sa conquête et de sa dévastation méthodique, devenue silencieuse, puis le recours ultime et légitime d'une revendication pacifique demeurée longtemps sans réponse, puis sans espoir. C'est également et directement le résultat du 8 mai 45, dernier avatar de la résistance désordonnée, infructueuse et désespérée du passé. Mais aussi le dernier acte de l'autisme et de l'arrogance politique du colonisateur. Il s'agit également et au premier chef d'une rupture de paradigme. En direct, inspiration de l'extrême violence coloniale du 8 mai 45, le soulèvement du 1er novembre inaugure en effet une nouvelle méthode de lutte, un nouveau mode de pensée. Les premiers révolutionnaires qui prennent les armes ne chercheront pas à faire entendre raison à l'autorité coloniale ni à adoucir les rigueurs de son système. Il s'agit dans la radicalité violente de reconquérir le pays sur l'occupant colonial, de lui reprendre par la force ce qu'il a pris et gardé par la force. En tant que visionnaire de la révolution algérienne, Aben Ramdan est le premier dirigeant à assumer consciemment et ouvertement cette rupture envers le colonialisme, les partis politiques algériens et leurs méthodes de lutte dépassées par les événements. C'est la première fois en effet depuis la conquête et l'occupation coloniale du pays que des combattants prennent les armes au nom de tous les Algériens et que la lutte est globale et multiforme, nationale, rurale et urbaine, politique, militaire et diplomatique, ouverte sur le reste du monde qu'elle prend constamment à témoin en se projetant dans l'universel. Le 1er novembre, réapparition de l'Algérie millénaire indépendante dans la modernité du monde, signe à ce titre l'acte de naissance de la modernité algérienne. Un moment d'organisation, de planification, de dépassement du passé, de projection dans un avenir inédit et prometteur dont Abban Ramadan avait déjà une vision claire. Alors, pour parler de tous ces événements majeurs, leur impact sur la lutte armée algérienne et la future Algérie indépendante, j'ai le plaisir de recevoir Blaïd Abban, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Blaïd Abban, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors, Monsieur Abban, le 8 mai 45, jour de la signature de l'armistice, des Algériens défilent dans les villes d'Algérie, donc l'armistice concernant la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Sétif, selon des historiens, certains scandent des slogans tels que « Abat le colonialisme et l'impérialisme ». Alors, la police coloniale ouvre le feu et les manifestants ripostent, tuant 103 Européens. S'en suivra alors une répression et des massacres faisant plusieurs milliers de morts à Sétif, Kharata et Guelma. Alors ma première question, comment expliquez-vous ces événements et quelles sont réellement leurs origines au-delà de ce qui s'est passé durant les manifestations de ce 8 mai 45?
C'est vrai que si on se fie à l'historiographie coloniale, quoi qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'écrits sur ce sujet, parce qu'on voulait véritablement mettre une chape de plomb sur cette page sombre de l'histoire coloniale et qui fait de la République pas blanc, pas si blanche que ça, la République. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas une génération spontanée. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé tout à fait par hasard. Du côté des nationalistes algériens, il était évident qu'après la victoire sur le nazisme, c'est logique qu'on puisse revendiquer une part de cette liberté si chèrement conquise pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Du reste, l'amiral Darlan avait incité les Algériens de souche à participer à la guerre, en contrepartie, on leur faisait miroiter leur part de liberté après la victoire. Donc, mais tout ce, pour, du côté des Algériens, les choses, bien entendu, étaient entrevues sous un angle purement pacifique et je reviendrai sur cet aspect-là. Du côté colonial et surtout du côté du bloc colonial, ce que j'ai appelé devant vous le bloc colonial, c'est le bloc des colons, c'est-à-dire le bloc de ceux qui étaient absolument intransigeant sur le maintien du statu quo colonial. Donc du côté du bloc colonial, administration et colonna, il y avait un calcul pernicieux. Ce calcul, c'était déjà de mettre à bas le statut de mars 1944, promis par le général de Gaulle, pour donner quelques miettes de liberté aux Algériens, notamment aux élites. Il y avait également le projet de neutraliser définitivement les partis nationalistes, notamment le PPA et son ex-croissance radicale qui était les AML, les Amis du Manifeste de la Liberté, qui est né avec Farhad Abbas, mais qui a été repris par les nationalistes radicaux du PPA. Donc, pour le colonna, il s'agissait de lutter contre toute tentative de réforme qui pouvait alléger quelque peu le fardeau des Algériens et également de neutraliser toute velléité politique, notamment celle portée par le PPA et les AML. Et il y a eu des tractations dans les milieux coloniaux pour organiser des provocations. Ça a été écrit, y compris par l'historienne Anireille Goldzeger. Donc, il y a eu des tentatives pour provoquer les Algériens. Et c'est effectivement ce qui s'était passé, car le jour du défilé du 8 mai 1945, il s'est trouvé donc une manifestation en tête du cortège. Il y avait des scouts musulmans algériens, encadrés par des militants politiques du PPA. Alors, quand on met des scouts musulmans algériens, il est évident que c'était pas pour aller à la guerre. Donc, c'était des intentions purement pacifistes. Les gens ont commencé à défiler du faubourg de la gare et se dirigeaient en direction de la rue de Constantine. Et sur le passage, il y avait ce qu'on appelle le Café de France. Café de France, il y avait le commissaire Thor et commissaire des renseignements généraux qui s'appelait Olivieri. Et ils avaient armes au poing et il y avait également des policiers avec mitraillettes au poing. À un certain moment, on voit arriver donc un jeune porteur. Il y avait beaucoup de jeunes portaient des drapeaux français, des drapeaux des alliés, etc. Il y avait un jeune qui s'appelle Bouzid Sahal qui portait l'emblème algérien. L'emblème algérien qui venait de naître d'ailleurs, le vert, blanc, rouge frappé du poisson et de l'étoile. Et il y avait des policiers qui sont allés le lui arracher. Et comme il n'a pas voulu le s'en dessaisir, il a été abattu froidement. Après ça, il y a eu une fusillade désordonnée des colons ou des ultras tirés des balcons. Les commissaires également auraient tiré quelques coups de feu. Et il y a eu du sang, il y a eu des blessés, etc. Et puis, vous savez, quand vous avez affaire à une violence aussi terrible, on vous tue parce que vous portez un drapeau, c'est une violence terrible, il y a eu un déchaînement de la foule. Et le déchaînement de la foule a eu pour résultat la mort de 123 Européens ou assimilés, c'est-à-dire des indigènes dits évolués qui étaient plutôt du côté de la France coloniale. Par la suite, il y a eu des milices pieds noirs qui se sont organisées en commando de tueurs. On a mobilisé l'armée de terre, la marine, l'aviation et sous les ordres du général de Gaulle. Le général de Gaulle a donné instruction pour neutraliser ce début d'insurrection. Bien sûr, les trois armes ont été données, l'aviation, la marine qui a bombardé les villages des environs de Kharata.
Oui, ça c'est la première fois que je l'entends.
Il y a 50 villages qui ont été détruits par l'aviation, notamment par le croiseur du Guetroin. Ils ont bombardé 50 villages détruits dans la région de Kharata et de Sornfnir. Donc sur des civils. Il y a eu ce qu'on appelle le strafing. Le strafing, c'est l'aviation qui roule à basse altitude et qui mitraille des colonnes d'indigènes, d'Algériens, de pauvres Algériens qui fuyaient vers les montagnes pour se réfugier. D'accord. Donc ça a été un massacre parmi les massacres coloniaux. Je crois qu'avec celui des Sipayes en Inde, je crois que c'est l'un des plus importants, c'est l'un des plus meurtriers, c'est l'un des plus sauvages, celui dans lequel l'instinct sauvage de l'idéologie coloniale a laissé ses données libre cours. C'est quelque chose de terrible. Les témoins dont les personnes que j'ai moi-même rencontrées ou les témoignages de Kadeb Yassine disaient qu'on voyait des morts partout. Il y avait des morts partout, dans les rues, dans les ravins. C'est quelque chose d'effroyable.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Okay. Et donc, le sens profond du côté algérien, c'est la revendication des droits à la liberté, tels qu'ils ont été promis. Et du côté du colonat, c'est maintenant, il est presque avéré, il y a beaucoup de témoignages, qu'il s'agit d'une tentative de provocation pour mettre à bas définitivement le sentiment national algérien.
Et permettez-moi de rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, parce que c'est très important. Après la mobilisation forcée par l'armée française de 140 000 Algériens durant la Première Guerre mondiale et pas moins de 120 000 autres Algériens aussi ont également participé à la Seconde Guerre mondiale pour libérer l'Europe, dont la France qui avait instauré officiellement la collaboration avec le régime nazi sous Pétain et Vichy. Alors, comment peut-on expliquer la violence de la répression coloniale au moment où les Algériens avaient droit normalement d'attendre une reconnaissance au moins, et si possible, un brin de liberté ou un brin d'espoir de la part de la France pour leur participation déjà à leur guerre dans laquelle ils n'avaient strictement rien à voir?
Ce sont évidemment, c'est une participation à leur corps défendant. Si vous vous rappelez, nous avions fait une émission sur mon roman « La lune à Tergazmoul » où j'ai décrit, et non pas comme en flashback, la participation des Algériens à toutes les guerres impériales et coloniales françaises. Mmh. Y compris la guerre de Crimée, y compris le Mexique, et bien entendu, vous venez de rappeler que les Algériens ont participé de manière déterminante d'ailleurs à la Première Guerre mondiale, à la Verdun, au Chemin des Dames, et également à Monte Cassino, dans les Ardennes, etc. Et donc, ils ont payé le prix très cher. Et ils ont bien entendu été mobilisés à leur corps défendant. Ceux qui pensent qu'ils sont allés défendre une patrie qui n'était pas la leur, à mon avis, sont soit de mauvaise foi, soit ils ne connaissent pas l'histoire du pays. Et ils ont été obligés de se, de se plier aux injonctions de l'administration militaire française. Et évidemment, ces gens-là, ils sont allés combattre, ils ont combattu très courageusement, et il semble aussi qu'on leur ait fait miroiter quelques droits civiques, c'est-à-dire qu'ils deviennent des citoyens à part entière, non pas des invités de second ordre dans leur propre pays. Tout ceci explique pourquoi beaucoup d'Algériens sont allés se battre, et ça explique également la très grande désillusion à leur retour de ces guerres, des guerres bien sûr coloniales, et également surtout les guerres impériales 14-18 et 39-45. La plupart de ceux qui sont allés combattre, ce sont des jeunes de la génération des Abin, des Ben Boulaye, des Ben Bla, etc. Et des Krim Rassem. Et ces gens-là, quand ils sont arrivés, au lieu d'être accueillis avec joie, ils ont été confrontés à un deuil national algérien, un deuil qui ne disait pas son nom, un deuil dans le silence et la douleur. Mmh. André Prenon, qui connaît très bien la démographie algérienne et l'histoire, la géographie démographique algérienne, a été dans le Constantinois, et l'Académie de l'Est, quelques mois après le massacre. Il a décrit une situation absolument apocalyptique dans l'esprit des gens. Il n'y avait pas une seule famille qui n'était pas endeuillée. Et pire, c'est que ces familles-là ne parlaient pas de leur mort de peur d'être prises pour cible, d'être sanctionnées, d'être étiquetées anti-françaises et radicales révolutionnaires. C'est quelque chose d'épouvantable. Alors là, je reviens à la question, à l'essence de la question. Pourquoi je reformulerai, si vous le permettez, la question. Mm-hmm. Pourquoi cette sauvagerie? Mm-hmm. Pourquoi cette sauvagerie? D'abord parce que dans l'esprit des colons et des Pieds-Noirs, en général, on va dire des Français d'Algérie, ce qu'il était convenu d'appeler des Européens ou des Français d'Algérie, il y avait ce qu'on appelle les peurs archaïques. La peur de la révolte de ce qu'ils appelaient des indigènes. On leur a toujours fait croire que l'indigène était là et qu'il n'abdiquerait jamais et qu'il ne renoncerait jamais à la récupération de sa patrie, de son territoire, quitte à provoquer des bains de sang. Et il y a eu effectivement des bains de sang après ceux qui ont été provoqués par la colonisation. La deuxième chose, c'est que la colonisation, le colonat de manière générale, même l'administration métropolitaine, ne pouvait pas s'imaginer que l'indigène puisse se mettre debout, puisse redevenir un homme libre au sens fanonien du terme, et dire « moi je veux avoir des droits ». On leur a dénié constamment le droit d'avoir des droits. Et lorsque les Algériens se lèvent pour réclamer des droits, c'est comme un animal qui veut avoir des droits.
Mais moi, ce qui me choque dans cet aspect-là, Monsieur Abend, ouais, c'est ouais, que ces Algériens, quand même, ont donné leur vie pour que la France se libère du nazisme, alors que des millions de Français étaient collabos du nazisme dans cette période. Il y a une image, que quand même, c'est catastrophique. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'il faudrait même poser la question à un psychanalyste. Ce serait intéressant de poser la question à un psychanalyste, c'est-à-dire que celui qui n'a pas fait son devoir au moment où il fallait le faire, donc
c'est plus facile de tuer des indigènes.
Voilà, et aussi de raser la tête des femmes en France, en métropolitaine. Ils se sont vengés sur les femmes alors qu'ils n'ont pas fait la guerre justement pour libérer le pays. Alors, en 45, ils se sont vengés sur les femmes en leur rasant la tête ou en les humiliant dans la rue. Est-ce qu'il n'y a pas cet complexe d'avoir été à la hauteur des exigences de l'histoire à un moment donné?
Non, pas du tout. En tout cas, on peut parler du colonat, on peut parler du milieu pied-noir en général et du colonat.
Ils n'ont pas beaucoup participé à la...
Oui, justement, j'y arrive. Là. Le colonat était pétainiste à 99%. Voilà. Ils ont même qualifié De Gaulle de traître à la patrie. De Gaulle était un traître à la patrie. Je décris dans mon livre une situation qu'ont vécu beaucoup de jeunes Algériens. Ils sont allés à la guerre en leur disant « vous allez défendre la patrie ». Et c'est pour lutter contre l'Angleterre et l'Amérique qui venaient soi-disant libérer la France. Et au bout d'un certain temps, comme la mouvance gaulliste était en train de monter, la mouvance gaulliste, elle leur a dit non, vous ne luttez pas contre les Américains qui sont les libérés, luttez contre l'armée allemande et les pétainistes. Donc, ça aussi, on peut l'appeler une drôle de guerre, puisque je crois qu'on va évoquer un bel concept de drôle de guerre. Les Algériens sont allés pour lutter contre un ennemi, on leur a dit non, c'est pas celui-là, retournez votre civil. Et Mohamed Mchati, qui était un membre des 22, m'avait raconté ça, c'était très très cocasse. Ouais. Les pétainistes, le milieu pied noir, étaient en très grande partie pétainistes, anti-gaullistes, et taxant même De Gaulle de traître à la patrie. Et ça, ce sont des vérités historiques, les écrits sont encore là.
D'accord.
Pour reprendre un peu ce qui vous interloque, parce qu'effectivement, ça interloque cette histoire. Ouais. On est tout à fait d'accord.
Bon, alors la troisième question, comment le bain de sang du 8 mai 1945 a-t-il provoqué le choc salvateur dans lequel les révolutionnaires, dont vous avez cité beaucoup, qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale et qui ont déclenché la guerre du 1er novembre 1954, ont puisé l'énergie et la résolution de vaincre ou mourir, prêt à tous les sacrifices et à tous les excès, dans une rupture totale avec les anciennes méthodes des partis politiques ayant formé l'ossature du mouvement national algérien.
Oui, ça c'est une logique parfaite. Les Algériens, pendant tout le 19e siècle colonial, ont lutté avec des armes pour chasser l'occupant colonial. Et ils ont été à chaque fois défaits, tout simplement parce qu'il n'y a jamais eu d'unité nationale dans la lutte. Au début du XXe siècle, c'est-à-dire à peu près vers les années 20, les Algériens, défaits complètement, écrasés, spoliés de leur terre, de leur culture, de leur identité, ils se sont dit « il ne reste plus qu'à utiliser le contexte colonial, les valeurs républicaines, pour essayer de gagner quelques miettes de droits ». Et c'est comme ça que sont nés des partis politiques tels que les Jeunes Algériens, tels qu'ensuite après l'étoilement africaine, et puis après le Parti communiste, l'UDMA, etc. Donc des partis politiques sont nés pour demander pacifiquement, politiquement, des droits. Et à chaque fois, bien sûr, notamment après le projet Blum-Violet de 37 qui a été refusé, des miettes, des toutes petites miettes pour les Algériens ont été refusées par la Colonna. Donc les Algériens étaient déçus à chaque fois. Et puis il y a eu ce catalyseur qui est le 8 mai 1945 qui leur a presque apporté de l'eau à leur moulin. C'est-à-dire ces jeunes-là, ils se sont dit on ne croit pas qu'ils vont sortir par la voie pacifique et politique. Et donc le 8 mai 1945 arrive et ils ont compris une chose avec des phrases très très simples. Moi j'ai un chapitre de mon livre que j'ai intitulé « Des armes nous voulons ». Nous ne voulons plus de politique. Et d'ailleurs, la politique a été tournée en dérision. On l'appelait le politique. Le politique pour la tourner en dérision. Nous ne voulons plus faire de politique. Des armes, nous voulons. La France coloniale est rentrée dans notre patrie par la force. Elle doit ressortir par la force. Et puisque vous avez évoqué un bain tout à l'heure, dans notre famille, il circulait très fréquemment cette fameuse phrase, son père qui lui dit « Avec quoi tu veux faire sortir la France avec des bâtons et des pierres ?» Et Abin, donc Ramadan Abin, qui lui répondait avec des pierres ou avec des bâtons, mais ils sont rentrés par la force, ils ressortiront par la force, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc le paradigme a complètement été changé, ce n'est plus la politique qui va permettre aux Algériens de glaner quelques droits, c'est la lutte armée, c'est la violence à boulet rouge telle qu'elle a été décrite par Frantz Fanon. La violence coloniale étant une violence suprême, il faut lui opposer une violence encore plus rouge, au sens sanguin du terme, plus rouge que la violence coloniale. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque vous avez utilisé une formule que j'ai également utilisée dans mon livre, c'est prêt à tous les sacrifices et à tous les excès.
D'accord.
Exactement.
Et pour une dernière question pour cette première partie, comment cette transformation du mouvement national algérien s'est-elle opérée pour enfanter, 9 ans plus tard, la révolution du 1er novembre 1954? Et qui sont les cadres qui ont joué un rôle majeur dans cette transformation radicale de paradigme?
Donc après le massacre du 8 mai 1945, tous les partis qui existaient ont été dissous, et notamment le PPA.
Donc, c'est le parti du peuple algérien.
partie du peuple algérien. Toutes ces parties-là vont renaître sous d'autres formes, notamment le MTLD, Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, qui est la ressuscité du PPA, l'UDMA de Farhat Abbas, donc c'est une partie d'élite street, et puis il y a également le Parti communiste algérien, et puis il y a le Jemayat al-Oulama. Tous ces partis-là vont continuer à poursuivre la lutte de manière pacifique. Mais dans le PPA, s'est opéré un changement de paradigme, comme nous le disions tout à l'heure, non pas au sommet, parce que Messali avait repris le flambeau de la lutte politique et pacifique, mais il était obligé de se plier aux exigences de sa base qui réclamait la création d'un mouvement paramilitaire qui s'appelle l'Organisation Spéciale, l'OSS, qui va préparer la lutte armée. Et c'est ainsi qu'en 1947 est née l'Organisation Spéciale, l'OSS, dans laquelle vont rentrer la plupart des jeunes qui ont combattu le nazisme, et donc la fine fleur des activistes du PPA-MTLD. On peut citer des noms, des Ben Mahidi, des Ben Boulaïd, des Abin, des Ben Bella, des Krim, etc., des Aït Hamed, bien entendu. Tous ces dirigeants-là vont rentrer dans l'OSS, c'est-à-dire une organisation qui sera non pas dans le MTLD, mais parallèlement MTLD. Si tu réussis, je te connais, si tu ne réussis pas, je ne t'ai jamais connu. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont été rejetés d'ailleurs, les militants de l'OSS. Mmh. Ça, c'est un problème très important.
L'OSS, c'est l'organisation secrète, donc c'est le premier noyau militaire de la résistance algérienne.
De la résistance algérienne, et qui va, en fait, la partie la plus importante du FLN de 54, de ceux qui ont créé le FLN de 54 et qui vont le diriger, ce sont des militants de l'OSS. C'est du personnel PPA, en grande partie OSS, parce que vont rejoindre les militants du PPA-MTLD, des gens comme Ridar, etc., et puis d'autres militants qui sont les militants de l'UDMA, de Farhat Abbas, c'est-à-dire les élites, les avocats, les médecins, etc. Grosso modo, hein, c'est un peu plus fin que ça, mais grosso modo, c'est ça.
D'accord. Et qu'est-ce que Ben Hamdan, justement, a joué dans cette transformation? Quel est son rôle?
Donc en 47, jusqu'à 47, il était militant du PPA, très discipliné, et il activait à Châteaudun-du-Rumel, chez le Romlaïd, actuellement, avec d'autres militants, où ils ont créé l'une des premières cellules dans la région. Et à la création de l'OSS, Abin s'est arrêté d'activer publiquement. Donc il a rejoint l'OSS, l'OSS et le parti. C'était le seul, je crois qu'on dit que c'est le seul militant qui avait en même temps la casquette politique, c'est-à-dire qui était responsable politique, il était chef de Wilaya, à Sétif, ensuite à Naba, ensuite à Béjaïa, et qui était en même temps recruteur de l'OSS, qui était dans l'OSS et qui était recruteur.
D'accord.
Donc voilà, et puis progressivement les choses vont se gâter puisque l'OSS va être démantelé en 1950, et Abin sera mis en prison jusqu'à janvier 1954.
D'accord. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le professeur Blaïd Abin, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le professeur Blaïd Abin, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, politologue et historien, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Professeur Blaïd Abin, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, avant de passer au vif du sujet, justement, sur cette seconde partie, je voulais quand même, par rapport à tout ce que vous avez développé, vous poser la question, est-ce que les chiffres qui sont avancés par rapport au nombre de victimes sont vrais? Ou il y a plus ou moins, ou je ne sais pas.
Ça dépend des chiffres que vous connaissez. Vous avez quel chiffre? Vous avez entendu quel chiffre?
Moi, j'ai entendu 15 000.
15 000. Alors, ce qu'on peut dire, il est évident que le tueur, lui, va essayer de minimiser le nombre de ses victimes.
Absolument.
Normal, pour minimiser son forfait. Donc, les autorités coloniales avaient avancé un chiffre de 2 000, 5 000, 6 000. Mmh. Le problème, c'est que personne ne les a crus. Pourquoi ? Parce que le seul rapport, les deux seuls rapports crédibles, c'est le rapport du commissaire Berger et le rapport du général Tuber. Tuber, quand les autorités coloniales, les autorités métropolitaines ont pris connaissance de ces deux rapports-là, ils ont arrêté les commissions d'enquête.
D'accord. Et
sur l'ordre du général de Gaulle lui-même. Donc, arrêter toute enquête, c'est terminé. On n'en parle plus. Voilà. Alors, moi, je vais vous avancer deux arguments.
D'accord.
Le premier argument, c'est la représentation américaine. À Alger, les Américains étaient très présents en Algérie à cette époque-là. Et représentés par le consul Robert Murphy. Les Américains ont avancé le chiffre de 50 000 morts. 50 000 morts. Donc d'habitude, on croit les Américains. Parce qu'il faut les croire cette fois-ci, ils ont avancé, en tout cas, le chiffre de 50 000 morts. Les géographes Nouchi et Prenant, vous voyez, donc c'est des faits qui ont été enquêtés dans le Constantinois, ils ont avancé le chiffre entre 20 et 25 000 morts. Les autorités algériennes, dès l'indépendance, ont retenu le chiffre de 45 000 morts. Alors, ma conviction à moi est que. Et que, bien sûr, le chiffre des autorités coloniales est très largement sous-estimé. Du reste, Annie Ray Goldzeger, qui a consulté les rapports le rapport du général Tuber, elle a dit ceci, elle a dit « c'est le document le plus horrible, le plus sinistre que j'ai eu à consulter au cours de ma carrière. » Et quand elle a dit ça, elle était déjà en fin de carrière. C'est-à-dire qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts.
D'accord.
On peut peut-être dire qu'il peut y avoir 50 000 morts dans la mesure où tous les morts n'ont pas été déclarés parce que les familles craignaient des représailles si elles déclaraient qu'elles avaient perdu quelqu'un. Donc beaucoup de familles ont caché qu'elles avaient eu des morts au cours de...
Les historiens français qui avancent le chiffre soi-disant, parce que moi j'ai ce que j'ai lu, si je me rappelle bien, et qui se sont même basés sur les déclarations justement de la représentation américaine, on dit entre 10, 15 000 comme ça. Donc ces chiffres, ils sont tout à fait, on peut tout à fait les remettre en cause.
À mon avis, ils sont très largement en dessous de la réalité.
En dessous
de la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a massacré partout. Il y a eu des milices avec le sous-préfet Hachiari dans la région de Guelma, les tirailleurs sénégalais, les milices qui faisaient ce qu'on appelle les milices pieds noirs, qui faisaient ce qu'on appelle la chasse aux merles. Les merles, c'était les indigènes. Et donc on tirait sur tout ce qui bougeait. Et on voyait des morts partout, à tel point, il y avait des morts partout, à tel point que Châtaigneau, gouverneur de l'époque, craignant la visite du ministre de l'Intérieur, un Français qui devait venir en visite en Algérie, il a ordonné qu'on fasse brûler les corps de manière industrielle dans un four d'Héliopolis, la région où était né, où était censé naître Wally Boumzé. Donc il y a eu, les odeurs de chair brûlée avaient imprégné la région plusieurs fois par la suite. Il y a eu des choses effroyables. C'est un four à chaud de la famille Petri ou quelque chose comme ça, qui a été réquisitionné pour brûler les morts.
D'accord.
C'est un massacre comme on n'en a jamais vu, là. En tout cas en Algérie. Peut-être les massacres de la période de conquête. Quoi qu'il n'y ait jamais eu 45 000 morts, ni 50 000, c'était des 5 000, les grottes du Dahra, les enfumades, les emmurements, les incendies, les razzias, tout ça, c'est des tribus de 5 000 à 6 000 personnes. Sauf si on compte les animaux, parce qu'ils ont massacré tous les animaux, les humains, etc. Ça, ce qu'il faut remarquer pour vos auditeurs, c'est que ces choses-là ont été accomplies, que ce soit au cours de la conquête ou par la suite au XXe siècle, par un régime qui, soi-disant, par un État, sous la responsabilité de l'État, qui est soi-disant issu des Lumières.
Ouais.
C'est ça qui est la Déclaration des droits de l'homme. C'est pour ça que je dis toujours, les Lumières européennes sont une malchance pour les peuples colonisés. Parce que ça a été un alibi, on vous a tué parce qu'en fait on est venu vous apporter les Lumières. Mmh. C'est une chose terrible. Moi, quand j'entends parler des Lumières...
Oui, d'ailleurs, même certaines de ces Lumières étaient déjà des trafiquants d'esclaves notoires, comme Voltaire, exactement. Montesquieu... Voilà.
Et la notion de démocratie aussi, c'est une notion très très relative. La démocratie, c'est comment peut-on appeler un pays, on peut l'appeler démocratique s'il bombarde, s'il massacre, s'il déporte des gens. Mmh. Alors c'est quoi le peuple alors qui bénéficie de la démocratie? C'est le peuple national seulement.
Absolument.
Donc actuellement, même la notion de démocratie doit être déconstruite.
Ça c'est comme les conventions de Genève. On a l'impression qu'elles concernent uniquement le canton de Genève.
Voilà, exactement, tout à fait. Voilà. Mais ça, c'est des notions très importantes sur lesquelles on pourrait peut-être un jour discuter la notion de démocratie. Qu'est-ce que c'est cette valeur dont on se targue pour aller conquérir les gens et les massacrer?
Bien. Alors, passons au vif du sujet de cette seconde partie de notre entretien. Durant la guerre d'Algérie, Ebn Ramdan a, dès la première heure, œuvré ardemment à la réunification des différents courants politiques algériens pour les fondre dans le seul Front de Libération Nationale, le FLN. Alors, forte personnalité, décrit comme la figure de proue du mouvement insurrectionnel, mais aussi comme un fédérateur, une sorte de Jean Moulin, comme disent les historiens français, de mouvement national algérien. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son parcours, ses qualités de chef révolutionnaire et sur le travail qu'il a accompli dans les rangs du FLN, ALN, Armée de Libération Nationale?
Vaste programme. Vous me demandez de résumer en quelques mots.
Un géant national.
J'ai écrit, c'est juste que j'ai... Non, c'est pas le fait qu'il soit un géant. Y a eu beaucoup de géants. C'est le fait que ces choses-là ont été dites sur plusieurs livres. Donc, Ben, si vous voulez, au début, c'était un militant du parti indépendantiste, du parti radical du mouvement national algérien, c'est-à-dire le parti du peuple algérien. Mmh. Un militant très discipliné, mais c'est un militant qui se posait déjà des questions. Il se posait des questions, et puis il est ensuite versé dans la partie la plus radicale, celle qui était chargée de préparer l'insurrection armée, dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'organisation spéciale. Cette organisation a été démantelée en 1950, et il a écopé de 5 ans de prison. Il a écopé de la plus lourde peine connue dans les procès de l'os, c'est-à-dire 5 ans de prison, privation des droits, 500 000 francs d'amende, etc. Enfin, bref. Donc il a été mis en prison en Algérie d'abord. Il a été, par mesure disciplinaire, il a été déporté vers les prisons des Baumettes côté dans le midi de la France, et puis vers une prison de haute sécurité à Ensisheim en Alsace, mm-hmm. entre Strasbourg et Mulhouse. Là aussi, il avait fait parler de lui. Il a écrit une lettre demeurée célèbre, où il raconte les conditions de détention des militants, et où il, en résumé, à la fin, il dit dès que nous sortirons, nous reprendrons la lutte plus vaillamment que jamais. Ben, cette lettre-là a été sortie de prison, elle a même été publiée par des organes de presse français de l'époque. Donc, ensuite, il est ensuite transféré à la prison d'Albi, dans le Tarn. Et c'est là qu'il a véritablement peaufiné sa culture politique. Il avait déjà une base parce qu'il a milité dans le PPA, et puis il avait une base intellectuelle, puisque c'est quand même quelqu'un qui a, c'était l'un des rares qui est arrivé en terminale, qui a eu son bac maternel, etc. Et donc il avait déjà des notions. Mmh. En plus, il y a le contexte familial. C'est quoi le contexte familial? C'est que mes grands-parents ont voyagé à travers le monde, ils ont très tôt rapporté des idées de liberté, de démocratie, de droit de l'homme, etc., dont il s'est très tôt imprégné. Et c'est comme ça donc qu'après sa sortie de prison, il a été transféré en Algérie, la guerre de libération nationale. Moi, je préfère l'appeler la guerre de libération nationale. On peut dire pourquoi. Donc, en 1er novembre 1954, la guerre de libération nationale s'est déclarée, alors qu'il était en prison, et il n'a été relâché qu'en janvier 1955. C'est-à-dire 4 mois après. Et il rejoint, au bout de quelques semaines, il rejoint dans la clandestinité le FLN, dont il prend la direction au niveau d'Alger. Et c'est là qu'il a commencé un travail d'unification des rangs de la résistance algérienne. C'est-à-dire qu'il a rassemblé tous les partis politiques dans le creuset du FLN, et il a également pensé à la doctrine politique du FLN, donc qu'il va mettre en œuvre à travers la plateforme du Congrès national qui se déroulera en août 1956, et c'est là qu'on trouve l'essentiel de la vision politique d'Ardan, c'est-à-dire dans cette plateforme de la Soubam, à savoir, objectif primordial, c'est la libération nationale, libérer la nation algérienne captive de l'emprise de la minorité coloniale et l'indépendance, c'est-à-dire libérer l'Algérie de la tutelle métropolitaine. Donc, libération nationale et indépendance. Et c'est ça le gros objectif avec la doctrine Ardan, avec cette et qui demeure jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'indépendance nationale, l'indépendance algérienne de toutes les tendances géopolitiques mondiales. C'est le fameux slogan de la plateforme de la Soumam, la révolution algérienne est inféodée ni à Washington, ni à Moscou, ni au Caire, ni à Londres. Et ça, c'est ce paradigme-là est demeuré intact jusqu'à nos jours. Et la politique algérienne reste très fidèle, très vertueuse sur ce plan, fidèle au paradigme soumamien de l'indépendance totale de la révolution de l'Algérie, de manière générale. Et bien sûr, une indépendance territoriale totale. Indépendance nationale totale, territoriale, militaire, diplomatique, etc. Il ne voulait pas d'une indépendance probatoire, c'est-à-dire avec sacrifice de la diplomatie ou de la défense nationale ou d'une partie du territoire. Et c'est que sur cette base-là qu'on négocie les délégués d'Évian, d'ailleurs.
D'accord.
Les délégués algériens à Évian.
D'accord. Maintenant, c'est-à-dire au-delà de l'historiographie, moi j'aimerais bien aller un peu en profondeur dans sa pensée, comment il voyait l'Algérie indépendante. Donc Ben Abdan avait également une profonde connaissance du pays, de ses problèmes, de la nécessité d'une révolution dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il transforme complètement l'être humain, qui le sort de son statut d'indigène, à un statut de citoyen capable de faire face aux exigences du moment et de se projeter dans le futur. Comment, donc, moi, ma question, est-ce que dans ses écrits, justement, il parlait de comment développer l'Algérie sur le plan économique, scientifique, politique, technologique ? Comment il voyait l'Algérie ?
Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il y a un grand personnage, un grand écrivain en même temps. Un théoricien des mouvements révolutionnaires du tiers-monde, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon était donc psychiatre à l'hôpital de Blida. Il s'était mis à déconstruire la psychiatrie coloniale qui reposait sur la vision que l'indigène était mauvais parce qu'il avait un cerveau qui était mal structuré.
Absolument, oui.
C'est le problème pour la psychiatrie coloniale, notamment.
C'est l'approche génétique des sous-développés.
C'est l'approche exactement génétique. Et quand il est arrivé, il a dit non. Il a dit l'indigène est comme ça parce qu'il est soumis à l'oppression et à l'écrasement colonial. Et il a commencé à déconstruire. Et donc, il a même donc fait des conférences, il a écrit des articles, et ça a attiré l'attention d'Aben et des responsables politiques du FLN de l'époque. Et un jour, Aben envoie Chollet pour chercher Fanon. Il a dit, je veux voir ce garçon-là. Il était jeune, Fanon, il avait un peu plus de la trentaine. Mm-hmm. Donc, Fanon est venu voir Aben. Ils ont discuté très longuement, et quand Fanon est sorti, il a dit une chose. Il a dit, je sais que la révolution algérienne est entre de bonnes mains. Parce que Fanon aidait les révolutionnaires algériens. dans la wilaya 4, il soignait, il aidait, il servait un peu de base logistique, parfois au FLN à LN. Et donc il a dit, je sais que la révolution algérienne est entre de bonnes mains. Alors quand Ali Cherki lui a posé la question, Ali Cherki c'était une disciple, sa disciple en psychiatrie, il était psychiatre également, il lui a dit pourquoi ? Il lui a dit parce que de tous les dirigeants avec qui j'ai discuté, cela Abdel a une vision post-indépendance. Mmh. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'Abdel avait une vision moderne de l'homme algérien, vision moderne, c'est-à-dire, je peux même dire à l'extrême, une vision laïque de l'avenir algérien, même s'il était très tolérant et même pratiquant à un certain moment de son existence, il a été même pratiquant, ça j'ai un souvenir où je l'ai vu en train de prier, mmh. C'était, c'est ce qu'on m'a confirmé par la suite, c'était une prière politique, parce que l'Algérien n'avait d'autre nationalité que la nationalité musulmane de l'époque, c'est un substitut de nationalité. Donc Abdel il voulait un homme moderne, il voulait également un avenir pour le pays qui était politique. C'est la signification profonde du paradigme de la primauté du politique sur le militaire. Mmh. Voilà, c'est-à-dire, c'est une façon pour lui, Benghidi, une façon pour lui et Benghidi de prémunir la nation algérienne des excès de toutes sortes, des excès du religieux, des excès de l'autoritarisme sous quelque forme que ce soit, notamment militaire. C'est une façon d'acheminer l'avenir algérien vers des horizons pacifiques de débats politiques et qu'il n'y ait pas de confrontation violente. Mmh. Ce qu'il faut dire également, il faut le dire, même si ça peut déplaire, c'est que Abdel, il voulait que l'État algérien soit un État civil. C'est un slogan qui a été repris par les gens du Hirak, mais c'est effectivement lui, moi je l'ai lu, donc dans la plateforme de la Soumane, et dans un écrit de lui-même d'ailleurs, il a dit l'ALN doit être réservée à des tâches militaires. Et toi, ne doit pas s'occuper des affaires civiles. Déjà à l'époque. Mmh. Donc il y a quand même une vision très moderne de l'avenir algérien. Est-ce que le temps lui a donné raison ? Ça, je ne saurais le dire. Alors, sur le plan économique, puisque vous avez évoqué ça, lorsqu'il était à Tunis, il y a le grand économiste Destane de Bernis qui était venu à Tunis, invité par l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, mmh. pour donner une conférence. Et Abdel, qui était à l'époque responsable de l'information, et il s'est dit, je vais l'inviter pour discuter avec lui, pour qu'il nous trace aussi pour nous, pour notre pays, les grandes lignes de l'économie algérienne basées sur ses richesses, sur les hydrocarbures, etc. Malheureusement, ça n'a pas plu à ses collègues du CCE, et c'était déjà à l'époque où les tensions étaient très très fortes, et donc ils ont empêché Destane de Bernis de venir au département d'information pour donner une conférence. Donc Abdel avait cette vision pour organiser une économie moderne pour l'Algérie. Destane de Bernis est venu par la suite invité à la fin des années 60 par Abdel Abdeslam pour créer ce qu'on appelle les industries industrialisées.
D'accord.
Voilà, quelques années plus tard. Donc l'idée était déjà de Abdel à l'époque. Hein.
Et alors, comment voyait-il cet aspect de la révolution? Et comment comptait-il s'y prendre? C'est-à-dire, quelle était sa vision de l'Algérie indépendante et de sa place dans le concert des nations? Donc, aussi bien sur le plan régional, international, en termes politiques, diplomatiques et culturels.
Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un trait de caractère de la révolution algérienne, pas de Abdel seulement. Mmh. La révolution algérienne, surtout à partir du moment où les responsables se sont expatriés, y compris d'ailleurs même avant qu'ils soient expatriés, ils marchaient sur des œufs. Sur des œufs, pourquoi ? Parce que la révolution, le mouvement national algérien a connu des soubresauts sur le plan idéologique notamment. Je fais référence, vous le savez, si bien que moi, à la crise berbériste de 1949. Donc la question identitaire, la question de la religion, la question de la nation algérienne sont des tabous qu'il ne faut pas évoquer. Il ne faut pas évoquer parce que si on veut définir la nation algérienne, il peut y avoir des questions qui fâchent. Si on veut parler de l'identité, il y a des questions qui fâchent. Si on veut parler de la religion, il y a des questions qui fâchent. Donc, ce qui était important pour les révolutionnaires algériens, notamment pour Atem, c'était de mener la révolution algérienne à bon port, c'est-à-dire indépendance nationale. Toutes les questions qui peuvent créer des problèmes, définition de la nation, la question identitaire, la question du religieux, étaient laissées en suspens. D'ailleurs, on considérait que c'était des questions qui n'avaient rien à voir avec la lutte contre le colonialisme français. Quand on leur a dit, on leur a demandé la constituante, ils ont dit « mais ça ne vous regarde pas ce que nous allons faire après. Ce que nous voulons, nous, c'est de nous libérer notre peuple et de libérer la patrie algérienne de l'emprise coloniale.
Mais il y a beaucoup...
Et toutes les tendances du mouvement national qui ont ensuite été réunies dans le FLN par Ampen, chacune avait provisoirement apporté ses idées, comme un peu comme une auberge espagnole, mais qu'on a laissé au frigo. À l'indépendance, on va les ressortir. Si bien que le ulama à l'indépendance, ils ont ressorti la nation algérienne musulmane et uniquement arabe et musulmane, les communistes aussi avec leurs idées, le PPA, l'UDMA, et donc les tensions sont revenues par la suite. C'est pour ça qu'il ne fallait pas les poser pendant la révolution. Si on les avait posées pendant la révolution, il y aurait eu probablement des...
Mais monsieur Aben, je voudrais quand même revenir à quelque chose d'important, parce que moi, j'aimerais bien savoir pourquoi il n'y a pas eu justement... on peut critiquer, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord sur ce que réalisait en particulier le Houari Boumediene quand il était président sur le plan social, industriel. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que justement vous avez attiré mon attention tout à l'heure quand vous disiez, moi je préfère dire la guerre d'Algérie ou la guerre de libération et pas la révolution. Est-ce que c'est le fait justement de ne pas avoir concrétisé un projet civilisationnel qui relierait les Algériens entre leur passé à leur passé avec une projection dans le futur qui vous fait dire ça?
Il y a certainement de ça, mais à l'indépendance, les dirigeants qui ont émergé à l'indépendance, ce n'est pas ceux qui ont pensé et initié la guerre. L'indépendance, c'est l'armée des frontières qui est arrivée, avec de jeunes combattants. Est-ce qu'on peut les appeler révolutionnaires? Peut-être, parce qu'ils se sont un petit peu inspirés du fanonisme, notamment le clan d'Oujda, Boumediene et ses compagnons. Quand le pays est devenu indépendant, il voulait surtout créer une Algérie comme une sorte de contre-copie, de la nation française, de l'État français auquel ils étaient habitués, c'est-à-dire un État jacobin, un État unitaire, une seule langue, un seul peuple, un président, etc. C'est ce qu'on appelle le monolithisme politique, idéologique, je dirais même économique, puisque après l'indépendance, il y a eu un étatisme sur le plan économique. Donc ils ont pensé que l'essentiel, c'était d'apporter le pain, l'éducation, les vaccins à la population, tout le reste, ça ne les regardait pas. Donc on a fait bénéficier au peuple algérien, dans toutes ses couches sociales, un peu de progrès social. C'est vrai qu'on peut le dire, il y a eu du progrès social puisque les enfants étaient vaccinés, les écoles étaient ouvertes, il y a eu un peu de progrès économique parce que le pays était pauvre, mais le peuple algérien était totalement marginalisé sur le plan politique. Il n'avait pas son mot à dire au point où on l'empêchait même de sortir, il fallait une autorisation de sortie pour quitter le territoire national. Donc ça provient du fait que la France coloniale a laminé les Algériens à laminer le peuple algérien tel qu'il existait. Et les dirigeants de la post-indépendance, ils n'ont perçu qu'une seule chose, c'est ce qu'on appelle le destin collectif. Nous allons tous avancer ensemble dans un même bateau. S'il coule, on coule tous. Si on est sauvé, on est tous sauvés. Et, bien sûr, les chefs resteront les chefs. Inamovibles. Mmh. Inamovibles. C'est-à-dire un seul candidat à la présidentielle, quiconque. Bien sûr, pour faire admettre tout ça, il fallait l'argent du pétrole, donc pour essayer de donner un petit peu et calmer les choses. Deuxièmement, un bras armé, des appareils répressifs d'État. Et c'est ce qui s'est passé depuis 1962. Voilà. Tant qu'il y avait du pétrole, des revenus pétroliers, il fallait la force des revenus pétroliers et l'appareil militaire répressif. L'appareil répressif d'État, police, services secrets, services sécurité, etc.
Alors, une dernière question, monsieur Ben. Alors, quand on juge globalement, on a bien fait de nous libérer de l'Algérie, on a bien fait de se libérer du joug colonial ou ils ont raté le coche? Ils auraient dû suivre la lutte politique pour plus de droits, une intégration meilleure.
Ça n'aurait pas abouti. On serait devenu un pays comme le Togo ou les pays africains avec une indépendance probatoire, les richesses qui partent en métropole, avec peut-être on aurait fait partie de la zone CFA, fonds des colonies françaises.
On en a fait partie, l'Algérie a fait partie.
Avant de sortir
de la zone CFA.
Oui, mais voilà, donc non, c'est pas... moi, je ne reviendrai jamais sur ça. Moi, personnellement, la lutte du peuple algérien est parfaitement légitime. La lutte menée par le FLN est parfaitement légitime. C'est-à-dire que, pour dire en des mots très simples, on a bien fait de se libérer du colonialisme. Alors maintenant, est-ce que cette lutte-là a porté tous ses fruits? C'est un autre problème.
Oui.
Mais on peut dire que, globalement, sur le plan économique, pendant les premières décennies, la lutte a porté ses fruits. Il y a eu beaucoup de scolarisation, on a mis fin à des maladies infectieuses, ça je suis bien placé pour le savoir en tant que médecin. On a tous bénéficié de bourses d'études. On a pu par la suite voyager. On est devenus des citoyens comme tous les citoyens du monde. Et malheureusement, sur le plan politique, nous avons tous été sous tutelle. Sous tutelle, les quelques dernières décennies ont libéré un peu le peuple algérien, puis il y a eu de nouveau un retour de chape. Et malheureusement, ça continue parce qu'il y a quand même un regain d'autoritarisme qui s'inscrit d'ailleurs dans l'ère du temps aujourd'hui. Les régimes sont, sous l'effet de la mondialisation, les régimes redeviennent très, très autoritaires.
Mais ça, on le voit partout, même en France. Même en France.
Voilà. Mais exactement, c'est ça ce que je voulais dire. C'est ça, c'est partout. Pas seulement. Moi, j'ai fait une conférence justement sur Facebook il y a même 3 ans, j'avais vu juste. J'ai dit. La démocratie, c'est presque, on peut dire que c'est presque trop tard. C'est presque trop tard parce que le monde a complètement changé et la vision géopolitique des puissants, notamment les puissants du monde occidental, ce n'est plus la démocratie. C'est de suivre les injonctions de la mondialisation. Mais c'est un autre grand sujet sur lequel on ne va peut-être pas se lancer,
il faut du temps. D'accord.
Il faut du temps. Bon. Pour que les concepts soient clarifiés.
Bien. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Professeur Blaide Aben, je vous remercie pour cet entretien riche en informations. Merci. J'espère que nous avons réussi à éclairer quelques zones d'ombre de ce sombre épisode de l'histoire coloniale française en Algérie, son impact sur le mouvement insurrectionnel du 1er novembre 1954. Je vais vous retrouver justement pour la seconde émission consacrée à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale sous peu. Merci encore une fois, à très bientôt. C'était le professeur Belaïd Abban, politologue et historien, professeur de médecine aux hôpitaux de Paris, auteur de plusieurs livres sur le mouvement national et la révolution algérienne. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.